Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Daniel et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Danielle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Et oui, c'est moi qui anime aujourd'hui l'émission et votre animateur régulier, René, est avec nous en studio et il s'occupe de la technique pour moi. Alors, je l'en remercie vraiment beaucoup. Donc, c'est une émission dédiée au mouvement des Alcooliques Anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Ça me fait un immense plaisir de vous présenter Gérald.
Bonjour.
Mon nom est Gérald et je suis un alcoolique. On est à l'automne 2020, alors évidemment, la COVID a bousculé la vie de tout le monde, nous a tous bousculés. Ça fait 30 ans que je suis membre des Alcooliques Anonymes, et pendant 29 ans et demi, j'avais l'habitude de faire des réunions des Alcooliques Anonymes au moins deux fois, trois fois par semaine, parfois plus. Ça organisait ma vie. Ça avait l'avantage d'amener une certaine régularité dans ma vie et j'ai même l'habitude de dire que ça a fait de moi un être assez équilibré, ce qui n'est pas naturel chez moi, pas du tout. J'étais, comme j'ai l'habitude de dire, tout sauf équilibré, mais j'ai réussi à vivre une vie équilibrée grâce aux Alcooliques Anonymes. Et c'est ça, donc, un partage implique toujours une explication, un retour sur qu'est-ce qui m'a amené à Alcoolique Anonyme. Je commençais à boire pas particulièrement jeune, là, j'ai l'impression que je devais avoir à peu près 16 ans, par là, 15-16 ans. Je viens d'une famille où mon père était membre des Alcooliques Anonymes. Les 12 dernières années de sa vie, il était membre des Alcooliques Anonymes. J'ai jamais eu l'impression que l'alcoolisme de mon père a fait que je suis devenu un alcoolique. J'ai jamais eu cette impression-là. Sinon que, dans la famille chez nous, on vient tous de deux familles, là, la famille maternelle, la famille paternelle. Alors, la famille maternelle, c'était des gens qui buvaient pas beaucoup, pour ainsi dire, pratiquement pas. Puis quand ils buvaient, ils étaient malades. Puis la famille, ou ben, il était malade, pas systématiquement, mais c'était pas des gens qui portaient l'alcool, comme on dit. Alors que sur le côté de mon père, ça buvait, ça prenait un coup. Puis là, il y a Noël qui s'en vient, puis je peux pas m'empêcher de me souvenir des parties de famille. Puis c'était joyeux chez nous, c'était joyeux. Il n'y avait pas de chicane, c'était joyeux, ça chantait, ça riait, tout ça. Mais ça prenait un coup en tabarouette. Mais il était pas malade, eux autres. Fait que moi, vu que je viens des deux familles, là, j'ai vraiment une hérédité assez équilibrée. Donc, moi, je prenais un coup puis j'étais malade. Fait que j'ai réussi à bien intégrer là, ces deux affaires-là. J'ai commencé, comme je disais, j'ai commencé à prendre de l'alcool au secondaire, secondaire. C'est drôle, les alcooliques, on a toujours des histoires particulières, tu sais. Elmer disait ça. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui a des relations spéciales avec l'alcool, qui a des lendemains matins avec l'alcool, qui se réveille le lendemain matin, puis qui se souvient ou qui se souvient pas, mais qui est encore sous l'impact de la veille. Là, puis dans les premiers parties, là, on était au secondaire, je devais être en 9e, 10e année. Là, je restais à Montréal-Nord dans ce temps-là. Puis bon, il y a un party qui s'organise. Ça devait être via celui qui s'occupait de la pastorale à l'école. Enfin, bref, c'était dans un sous-sol d'église. Je dis souvent que mon histoire a commencé dans un sous-sol d'église, puis aujourd'hui, elle continue dans un sous-sol d'église, assez poursuivie dans un sous-sol d'église. Et c'est ça. Et là, il y en a un dans la gang, un petit Portugais, qui dit que son père fait du vin, puis il va apporter du vin. Fait qu'on se réunit dans ma chambre, on demeure dans un duplex à Montréal-Nord, puis j'ai ma chambre en bas, puis il arrive avec une espèce de cruche de vin, puis là, on commence à boire, puis après ça, on prend l'autobus, puis on boit encore à l'arrêt d'autobus, de telle sorte que, quand on est arrivé au party en question, là, moi, je suis bien chaud. Tu sais, on devait être 5, 6, 7 dans la chambre chez nous, tu sais. On était deux à être bien chaud, tu sais. Les autres, ils étaient pas comme ça, tu sais. Puis là, il y a une scène, puis les gens sont assis comme en demi-lune, là, en face de la scène, là. Puis là, moi, je m'en vais me coucher, là, à terre, là, en avant de tout le monde, puis je dérange tout le monde, puis là, ils me mettent dehors, puis pas violemment, là, rien de méchant, là, mais tu sais, puis je vomis dans la neige, puis le lendemain matin, je me souviens, là, je suis dans la cuisine chez nous, là, chez mes parents, en train de me bercer, là, puis, tu sais, j'ai été malade, j'ai vomi dans le bois, puis tout ça, tu sais. C'est ça, un alcoolique. J'écoutais récemment une émission de Johnny Cash qui reprenait une chanson de Kris Kristofferson qui s'appelle Sunday Morning Coming Back, c'est ça. Puis c'est un gars qui se réveille le dimanche matin, tu sais, puis il prend un coup la veille, tu sais, puis il y a de la misère, c'est rough, puis il se promène, puis il voit le monde qui recommence à vivre autour de lui, puis... À toutes les fois que j'entends cette chanson-là, je me dis, faut être alcoolique pour écrire une chanson comme ça, tu sais. Il y a juste un alcoolique qui a vécu ça, tu sais. Comment on se sent le lendemain matin, tu sais. Comment on se sent, tu sais. Puis comment ça se fait que, malgré qu'on s'est senti comme ça, malgré que, tu sais, puis là, je vous compterai pas toutes les fois que j'ai été malade, puis comment j'ai été malade. J'avais découvert des trucs pour essayer d'être moins malade, puis. Je recommençais à boire. Ma femme me disait ça. Moi, j'ai une femme qui est une espèce d'alanon naturel. Elle n'a jamais essayé de m'arrêter de boire. Elle a toujours su que c'était à peine perdu, qu'elle avait aucune chance de réussir à m'arrêter de boire, puis qu'elle n'avait pas non plus de culpabilité. Elle ne se sentait pas responsable de ça. Je ne l'ai jamais fait sentir responsable. Si je buvais pas le goût de boire, puis ça finissait là. T'sais. Mais elle disait ça. Elle disait, tu sais que tu vas être malade, puis tu continues. C'est ça qui est mystérieux. Comment ça se fait, tu sais. Puis je peux pas... je m'en venais tantôt pour préparer l'émission, puis c'est drôle le hasard. Cette nuit, je le dis, là, c'est vraiment le hasard qui a fait ça. Cette nuit, j'ai terminé la lecture d'un livre d'Émile Zola qui s'appelle L'Assommoir. L'Assommoir, ça a été écrit sur 1865, à peu près 1866-7 par là. C'est sur l'alcoolisme. Ça porte sur l'alcoolisme. L'assommoir, là, c'est la machine qui produit l'eau de vie et qui assomme le monde, tu sais. Ils vont s'assommer, tu sais. Et il y a un personnage dans ce roman-là, là, qui va mourir d'alcoolisme, là. Et je disais ça à quelqu'un récemment, je disais, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est écrit il y a 150 ans. C'est pareil comme aujourd'hui. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, oui, il y en a une différence. Aujourd'hui, il y a Alcoolique Anonyme. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Alcoolique Anonyme. Mais l'alcoolisme, c'est la même chose. Il va en désintoxication. Il appelait ça l'asile à l'époque. Là. Il rentrait là, il était tellement fou. Là. Il hallucinait, puis tout ça. Puis c'est le personnage du roman, là, mais je pense qu'on peut croire que c'était comme ça. Là. Zola s'est inspiré de la réalité. Et là, après quelques jours, après une espèce de désintoxication douloureuse, on le renvoie chez eux, puis on lui dit, ben, t'as juste à pas boire. T'as juste à pas boire, puis ça va être correct, tu sais. Puis là, il arrive chez eux, puis il dit à sa femme, oui, mais juste un verre de temps en temps, ça peut pas déranger, hein. Ça peut pas déranger. Puis il revient pareil. Puis il va mourir comme ça. Puis il meurt dans une espèce de cellule, capitonné parce qu'il se pitche la tête sur les murs. Puis là, les médecins, il y a deux puis trois médecins qui viennent le voir tous les jours, qui le regardent, qui essaient de comprendre comment ça se fait. T'sais. Ils sont incapables, ils sont impuissants, ils n'ont absolument rien. T'sais. Ils donnent de l'eau, de la limonade, c'est vrai, tiens, c'est ça. On lui donne de la limonade pour essayer de l'aider. Ils sont complètement dépassés. T'sais. Et une fois qu'il est mort, le médecin demande à sa femme, est-ce que son père buvait beaucoup d'alcool? Elle dit, non, il buvait comme tout le monde. C'est ça, quelle expression extraordinaire. Ça dépend du monde que tu connais, évidemment. Ça dépend toujours de ça. Tout ça pour dire que, moi, quand je suis arrivé à Alcoolique Anonyme, il y a 30 ans, j'étais pas rendu aussi loin que ça. T'sais. J'étais quand même pas rendu aussi loin que ça. J'ai pas connu l'hallucination. J'ai pas connu. Je pense. Je commençais à connaître certains tremblements, certains espèces de tremblements intérieurs, là, t'sais, qui fait que tu te sens vraiment là, déstabilisé. Là. Des lendemains de veille, là, j'étais tout à l'envers, perdu, confus. T'sais. Je suis pas allé aussi loin que le personnage, là, mais j'étais pas capable. J'étais pas capable d'arrêter. T'sais. Pour expliquer rapidement mon cheminement, moi, j'ai arrêté de boire une première fois en 1983. J'avais 30 ans à l'époque. J'avais passé des tests parce que j'avais des problèmes de santé. Je vomissais souvent. Puis on m'a dit, mon médecin m'a dit, Gérald, t'as des taux de triglycérides très, très élevés. Puis t'es en train de développer un diabète d'alcoolique. T'sais. Il m'a dit, tu bois pas tous les jours, mais quand tu bois, tu prends des méga-doses. Je buvais beaucoup de fort, puis du vin, puis du fort surtout. Puis elle a dit, ben c'est ça, tu es en train de maganer ton pancréas, puis tu vas développer du diabète. Là, je peux bien dire, là, c'est une anecdote, ça fait rire parfois les gens. Moi, j'avais toujours su que les diabétiques avaient des problèmes d'érection, ça fait que ça m'a convaincu à arrêter de boire. J'ai trouvé ça très motivant. Alors, mais au-delà de ça, je pense que lorsque je suis allé voir le médecin à ce moment-là et que j'attendais les résultats des tests qu'on m'a passés, je pense que quelque part, j'étais prêt à arrêter et c'est ce que j'ai fait.
Merci beaucoup, Gérald. Quelle inspiration. 30 ans, mais il faut dire, en passant, que c'est un 30 ans qui se fait un jour à la fois, selon la philosophie des alcooliques anonymes. Donc, on va prendre une petite pause et au retour de la pause, Gérald va poursuivre son partage pour nous ce matin.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Donc voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, tiré aujourd'hui des réflexions de Bill. Nous remercions notre Père céleste qui, par l'entremise de si nombreux amis et de si nombreux canaux et moyens, nous a permis d'ériger ce superbe édifice spirituel que nous habitons désormais, cette cathédrale dont les fondations reposent déjà aux quatre coins de la terre. Sur son énorme parquet, nous avons gravé nos 12 étapes de rétablissement. Sur les murs de cette cathédrale, nous avons vu les contreforts des traditions des AA s'ériger pour nous conserver dans l'unité tant que Dieu le jugera à propos. Des cœurs et des mains ont mis en place le clocher de notre cathédrale. Ce clocher porte le nom de service. Puisse-t-il toujours pointer vers Dieu. Donc, on est en compagnie aujourd'hui de Gérald. Et Gérald, je disais pendant la pause à Gérald que je trouve qu'il a une tranquillité et une manière d'être qui sont très apaisants. Et ça me fait du bien, moi, de t'entendre, Gérald. Alors, j'ai hâte d'entendre la suite.
Merci. Merci, Daniel. Merci. Ça me fait toujours drôle quand les gens me disent ça. Effectivement, j'avoue que je suis obligé de constater que je pense que je comprends que les gens disent ça. Mais je peux pas ne pas faire de lien avec or. Je peux pas ne pas faire de lien avec or. Il y a des choses qui sont naturelles. Là. On a tous nos personnalités, notre façon d'être là. Indépendamment de notre cheminement, indépendamment de notre vie, mais cette forme de tranquillité, j'ose dire, là, sans prétention, je pense pas, une certaine sagesse Me vient d'or. Quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes à l'hiver 1990, j'étais pas très calme. J'étais pas très sage. J'étais dans un état de confusion. Moi, j'ai arrêté de boire, là, en 1983. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer. Sans faire des Alcooliques Anonymes. Et sans faire un partage narcotique anonyme, je peux dire qu'à ce moment-là, bon, j'avais déjà pris de la drogue, là, mais je suis vraiment tombé dedans. Je suis tombé dans... Moi, ma drogue de prédilection, c'est le H, là. Je suis tombé là-dedans, là. En 1983, je vous dis souvent, j'ai fait une espèce de transfert qui m'a amené à Narcotique Anonyme en 1986. Je dis souvent, j'ai arrêté de fumer, je roulais pas assez vite. J'avais de la misère à me fournir. Mais c'est bizarre parce que je suis arrivé, je suis passé, dis-je, par Narcotique Anonyme via A. J'avais un ami qui avait un gros problème, puis je l'avais amené faire au pain du jour. Je l'avais amené au pain du jour. Je connaissais ça, le pain du jour. Moi, je vous l'ai dit, mon père était membre des Alcooliques Anonymes, puis mon père faisait ce meeting-là, puis il m'avait déjà amené. C'est vague, là, j'étais très jeune, là, mais il m'avait déjà amené une fois ou deux dans des meetings. Pardon. Non pas en me disant que j'avais un problème d'alcool, mais enfin, j'étais très proche de mon père. Tout ça pour dire que j'avais amené cet ami-là à AA, donc à ce meeting-là, puis il y avait quelqu'un que je connaissais qui était à une table à la réception, qui était une cliente d'un bar où j'avais travaillé sur la rue Saint-Denis. J'ai travaillé, puis j'ai été même propriétaire d'un bar sur la rue Saint-Denis pendant des années. Et elle m'avait parlé, puis j'avais dit, ben moi non, moi je pense que j'ai un problème de drogue. Puis elle m'avait parlé de Narcotique Anonyme. C'est là que j'ai commencé à en faire. Tout ça pour dire que, puis je veux pas faire un partage NA, là, évidemment. En 1986, j'ai fait quelques réunions de Narcotiques Anonymes. J'ai arrêté d'y faire. J'ai été plusieurs années sans consommer. Et j'ai recommencé à consommer à l'été 1989. J'ai recommencé à consommer à l'été 1989 parce que c'est difficile à expliquer. C'est jamais quelque chose qui se passe. Quand ça fait 6 ans que t'as pas bu, s'il y a pas un matin où tu te réveilles puis tu commences à boire. Il y a toujours quelque chose qui amène ça. Il y a toujours quelque chose. Il y a un cheminement quelconque, là, tu sais, des événements, puis en tout cas. Mais en gros, j'avais l'impression que je serais capable de boire raisonnablement. J'avais cette impression-là. Et moi, quand j'avais arrêté de boire en 83, j'avais maigri beaucoup. Puis j'avais souffert de ça dans ma vie d'être gros. À l'adolescence, vécu du rejet, puis tout ça, puis et j'avais l'impression que parce que j'avais maigri beaucoup, j'avais perdu 50 livres, et parce que je savais que si je recommençais à boire comme avant, je serais obligé d'arrêter encore, tu sais. Puis je me disais, ben, je vais boire raisonnablement, tu sais, je vais faire attention. Puis effectivement, la première fois que j'ai rebu, c'était bien correct. J'ai bu 2-3 verres, puis... C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est le lendemain. Le lendemain, parce que là, ça faisait des années que j'avais pas pris d'alcool. Le lendemain, il y a quelque chose qui se produit qui s'appelle l'obsession. Les alcooliques, on appelle ça l'obsession mentale. J'avais pas vécu ça, moi, pendant des années. Me lever, puis me demander si j'allais prendre de l'alcool aujourd'hui. Quand est-ce que je prendrais de l'alcool? Qu'est-ce que je boirais? Si j'en avais acheté, qu'est-ce que j'avais acheté, qu'est-ce que j'avais pas. J'avais pas vécu ça pendant des années. Puis là, tout d'un coup, j'ai immédiatement recommencé à composer, négocier avec l'alcool. T'sais, ben là, faut pas que je boive aujourd'hui. Si je bois aujourd'hui, m'attendre, boire juste tel jour, puis... M'en bois juste du bon vin, m'en bois moins. Puis ces résolutions-là, aussi intelligentes et sages qu'elles puissent sembler, ça marche pas chez moi, ça. Puis je pense que je peux dire, sans me tromper, ça marche pas chez les alcooliques. Ça marche pas. Tôt ou tard, là, tu recommences à boire, hein, puis tu fuck de la merde. La merde. C'est drôle, hein? J'ai bu pendant cette période-là, parce que là, on était à l'été 89, puis je vais arriver à Alcoolique Anonyme à la fin de l'hiver, ou en février-mars 90, là. Je m'en rendais pas compte, c'était pas conscient à ce moment-là, mais avec le temps, là, en analysant ça, j'ai l'impression que j'ai bu pour m'écœurer de boire. J'ai bu avec l'impression que j'arriverais à un point où j'aurais plus le goût de boire. Puis c'est drôle parce que, effectivement, parce que ça n'a pas duré, là, mes résolutions, là, à partir de l'automne, là, ça a été une descente épouvantable, mais toutes les soirs, ou toutes les nuits, là, quand je revenais chez nous, là, à 2-3 heures du matin, là, après avoir bamboché, puis moi, en fait, c'était dans mon char. Moi, j'étais bien dans mon char. Puis c'est commode, parce que dans l'auto, on a pas mal de services à l'auto, hein, fait que... T'as pas mal tout ce que tu veux. Tu trouves pas mal tout ce que tu veux dans ton char. Moi, j'allais plus n'importe, moi. J'allais plus là. M'intéressait plus de boire avec les autres. Fait que, quand je revenais chez nous, là, à 2-3 heures du matin, là, je pleurais pas tous les soirs. J'étais pas découragé tous les soirs, mais je me disais, ah, je t'ai écœuré, c'est de la merde. L'alcool me donne plus rien. J'ai plus de fun. J'en ai eu du fun. Faut pas se le cacher. Souvent dans Alcoolique Anonyme, on a peur de dire ça, qu'on a eu du fun. J'en ai eu du fun à prendre un coup. Moi, j'ai adoré ça. J'ai travaillé dans un bar. Moi, m'asseoir à côté de quelqu'un, là, puis si c'est un gars, là, au bout de 15 minutes, on est des chums, ça n'a pas de bon sens, là. Puis si c'est une fille, si je suis pas marié, là, j'ai toujours dit, mais si je suis pas marié, c'est parce qu'il n'y a pas de curé au bar à 3 heures. Je me serais marié souvent, moi, là. Ben souvent. C'est juste que le lendemain matin, là, quand on se réveillait, je me souvenais pas de son nom. C'est ça. Et puis je me souvenais pas où était mon char non plus. Là, puis toutes sortes d'affaires, je me souvenais pas. Mais là, je vais me perdre, là, ça fait que je vais revenir à c'est ça. Et donc, oui, quand je me couchais, je me disais, je suis écœuré, c'est de la merde. Boirai plus jamais. Puis je croyais être capable, parce que je l'avais déjà fait pendant des années. Puis le lendemain matin, je me réveillais, puis j'étais convaincu que je boirais plus. Puis là, il y a une espèce de cheminement mental. C'est ça qu'on appelle l'obsession chez les alcooliques anonymes. Il y a une espèce de... Moi, la forme que ça prenait, là, puis si t'as de la misère, puis si tu rechutes continuellement, essaye de te voir là-dedans. Comment tu réussis à te convaincre que cette fois-là, ça sera pas comme d'habitude, que ça sera pas de la merde comme d'habitude. Comment est-ce que tu réussis à te convaincre de ça, t'sais? Moi, la forme que ça prenait, là, c'était genre, bon, ouais, on est mardi, là, jeudi, j'ai un souper telle place, fait que je vais boire jeudi, fait que je suis aussi bien de boire aujourd'hui, puis j'arrêterai vendredi. Ça a bien de l'allure. C'est bien logique, cette affaire-là. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchait jamais. Fait que c'est comme ça que je suis arrivé à Alcoolique Anonyme. Je suis arrivé à Alcoolique Anonyme parce que je n'étais pas capable d'arrêter tout seul. Je n'étais pas capable. J'essayais, puis je n'étais pas capable. Puis je buvais, puis j'avais plus de fun. C'est ça. Si t'es rendu là, c'est une période difficile. C'est très difficile et même, c'est dangereux, quant à moi. Parce que contrairement à la période que j'appelle ma période d'insouciance, là, aller jusqu'à 30 ans au moment où j'ai arrêté de boire. Là. Ma période d'insouciance, je prenais un coup, puis on niaisait, puis on avait du fun, puis je faisais pas de promesses, puis j'essayais même pas d'arrêter. Je prenais un coup, puis c'était pas plus grave que ça. Alors que là, je voulais arrêter, puis ça marchait pas. Mon affaire. C'est ça. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui amène cette grande confusion-là. Comme je vous dis, je n'étais pas rendu comme le personnage de Zola. Je parlais pas tout seul sur la rue, là, mais j'étais de plus en plus dans ma tête. Là.
Oh, merci Gérald. J'adore t'écouter. Et tu as parlé de l'obsession mentale, la fameuse obsession où on se demande quand va avoir lieu notre prochain verre, puis le contrôle qui vient avec ça aussi, le où, le quand, le comment et le pourquoi. Pas trop souvent, on se posait pas trop la question, mais en tout cas, on va prendre une courte pause, puis après ça, on va poursuivre ton beau partage.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je m'appelle Daniel, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, notre site Internet, un jour à la fois, trait d'union, émission au singulier, .org, te donnera accès à tous nos nouveaux balados contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivée de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur tout appareil intelligent. On peut aussi retrouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire personnelle de rétablissement. Alors, on poursuit avec le beau partage de Gérald. Gérald, on t'écoute.
Quand je suis arrivé aux Alcooliques anonymes, en fait, je suis venu aux Alcooliques anonymes parce que je savais. Je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille. Je savais que c'était la chose à faire. Dans l'état où j'étais, de cette incapacité d'arrêter de boire là, tout seul, puis d'écœurement, puis je savais. C'est un peu vague. Les premières réunions que j'ai faites, c'est un petit peu vague. Je me souviens d'une réunion où je m'en vais, ça arrive sud, puis je vois quelqu'un que je connais. Et le souvenir que j'ai de cette réunion-là, je peux pas dire que je me souviens du partage. Je crois que c'est... La chose qui m'a frappé, c'est le Notre Père à la fin. Le Notre Père à la fin de se tenir par la main, de tenir la main de ce gars-là que j'avais rencontré par hasard, qui s'appelait René, soit dit en passant. Pas le René, notre animateur, mais un autre René. Oui, oui. Je partirai pas sur la polémique sur le Notre Père, mais je comprends très bien, soit dit en passant. Je comprends qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça. Mais je pose toujours la même question. Si on enlève le Notre Père, on va le remplacer par quoi? Parce que moi, j'ai trouvé ça important. Moi, ça m'a... C'est fou, j'ai senti dans cette poignée de main-là une puissance qui pouvait m'aider dans ma détresse à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire des réunions. C'est un peu vague parce qu'à ce moment-là, je continuais à consommer. Mais j'ai continué à faire des réunions. J'ai continué à faire des réunions parce que... probablement parce que j'ai aimé ça. J'ai aucun souvenir d'être allé faire des réunions en disant « il faut que j'y aille absolument ». Je ne me suis jamais senti obligé, jamais personne ne m'a mis de pression. Il y a quelque chose qui m'attirait, définitivement. Dire que ça a été pour moi une révélation immédiate, illumination, la réponse est non. La réponse est non. Moi, ça a été une intégration lente. Ça a été une intégration progressive dehors. J'étais pas fermé, j'étais pas rébarbatif. J'avais pas l'impression que les gens mentaient. J'avais pas l'impression que les gens... Je pense, puis c'est avec le recul que j'ai compris ça, je pense que mon hésitation venait du fait que j'étais pas sûr que c'était ça que je voulais. Je suis pas sûr que je voulais arrêter, tu sais. J'avais l'impression que j'étais pas allé au bout. J'écoutais des gens qui avaient des partages là, de détresse épouvantable, qui avaient tout perdu, puis jusqu'à un certain point, je les enviais. Je les enviais. Moi, je travaillais encore, j'avais ma femme, j'avais mes enfants. Ben, en fait, j'en avais, j'allais dire, deux et trois quarts, parce que le dernier quart est arrivé à fin juin 1990, mon troisième enfant. Un petit peu de bien, là, tu sais. Et c'était lourd. Pour moi, tout ça, là, dans le fond, chanceux, j'avais pas tout perdu, mais en même temps, pour moi, c'était lourd, ça. Il y avait une lourdeur, une difficulté, puis aussi, je sais pas ce que je sentais à l'époque, c'est ce que j'ai compris par la suite, là. qui a fait que j'ai eu deux rechutes après. Moi, je suis arrivé au mois de mars 1990 et j'ai eu une rechute en mai, puis la dernière, le 30 juillet 1990, c'est la dernière fois que j'ai bu. Mais moi, dans le fond, là, j'aurais aimé tout perdre, me retrouver dans la misère et que les gens me prennent dans leurs bras. Que les gens me prennent dans leurs bras en me disant « Gérald, là, laisse-toi aller, laisse-toi... » Puis ça marchait pas parce que j'ai toujours tout fait dans la vie pour être indépendant, pour être, avoir l'air de tout contrôler, puis être au-dessus de tout. Puis bon, enfin bref, j'ai réussi assez bien dans ce sens-là, là, mais... Pour moi, c'était ça, en tout cas. Pour moi, c'était ça. Fait que, bref, j'ai eu une intégration, je dis lente, quand même pas été si lente que ça, parce que déjà en juin, je faisais des réunions assez régulièrement. Mon premier partage, Armand B, qui m'a fait partager pour la première fois, fin juin, ou enfin, en juin 1986, au groupe qui était à l'époque, chez vous, oui, c'est ça, chez vous, dans les catacombes de la place des Jardins. Donc, dans le fond, si tu trouvais le meeting, c'est parce que vraiment tu voulais faire un meeting. T'avais vraiment besoin de faire un meeting. Non, je fais des farces. C'est ça. Et la dernière rechute, c'est ça, 30 juillet 1990. Et le lendemain de cette rechute-là, dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à faire des meetings. Et celui qui est devenu mon parrain à l'époque, Jacques, et Jacques H. Et j'avais dit, Jacques, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus retourner boire? Je suis tanné. Je suis écœuré. Il m'avait dit, Gérald, implique-toi dans... C'est sûr que rendu en juillet, là, 1990, fait comme 5 mois, 6 mois, je fais des meetings. Je suis pas complètement imbécile. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui s'occupent des choses. Il y a du monde assis en avant, tu sais, bon. Est-ce que j'avais assisté à ce moment-là des business meetings? Peut-être, je sais pas, là, je suis pas certain. Je sais qu'il y a quelqu'un qui distribue le café. Je sais qu'il y a du monde quand t'arrives à l'entrée, puis tout ça, tu sais, puis bon. Et Jacques m'avait dit, Gérald, implique-toi, tu sais. Il m'avait dit... N'oublie jamais. Puis j'avais commencé à lire, j'avais lu un peu de littérature, j'avais fait un intensif, une fin de semaine avec Jacques T. Ça aussi, ça avait débroussaillé chez moi les concepts de la religion puis de la spiritualité. Ça a été une très bonne chose pour moi, ça, de débroussailler ça puis de comprendre, enfin, d'avoir une ouverture vers la spiritualité, la prière, la méditation. Et tout ça pour dire, donc je reviens à ça, l'implication. L'implication. Ça fait que Jacques, il me dit... puis je l'aimais, je l'aime encore, d'ailleurs, ce gars-là, et j'avais confiance en lui. Et tout ça a fait que au mois d'août, au business meeting du groupe que je faisais à l'époque, le groupe La Mi-temps, le ou La Mi-temps, on n'a jamais su, le midi, le lundi midi, en face de Radio-Canada, à Saint-Pierre-Apôtre. Et donc, je lève ma main pour faire le ménage. Je lève ma main pour faire le ménage, puis j'ai gagné. J'ai eu le ménage, là, tu sais. Puis il n'y a personne qui m'a contesté ça. Je l'ai même fait pendant des mois de ménage, tu sais. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné que il y a des matins quand tu commences d'en haut, puis il y a des matins quand ça fait longtemps que tu es d'en haut aussi, où tu vas pas très bien. Moi, j'appelle ça des journées gnagnais. Tu es juste gnagnais, tu sais. T'es pas sur la rechute. T'es pas sur le bord de la rechute. T'es juste gnagnais, tu sais. Ah bon, un autre 24 heures, c'est donc extraordinaire, tu sais. On continue pis on lâche pas, tu sais. Quand t'es dans cet état-là, moi, mon image, c'est je suis debout sur la clôture, là, pis je sais pas quel bord de la clôture que je vais tomber, tu sais. Je vais-tu m'en aller vers... On pourrait appeler ça le bien, le mal. On pourrait appeler ça la lumière, le diable, l'enfer. Où est-ce que je vais aller, tu sais? On a quelque chose de déroutant, nous autres, les alcooliques puis les toxicomanes. C'est une grande attirance vers l'autodestruction. Ça, quant à moi, c'est notre vrai point commun. Une grande capacité, pour ne pas dire une capacité infinie d'autodestruction. Ça fait quand t'es dans cet état-là, tu sais? Moi, les lundis matins, que je me sentais de même, là, j'avais pas le goût d'aller faire un meeting. J'avais pas le goût de partager. J'avais pas le goût d'appeler personne. J'avais le goût de rester là-dedans, dans ce gnagnais-là, dans ce... qui peut être de la colère, qui peut être de l'apitoiement, mais qui serait général, c'est un ou l'autre. Règle générale, c'est un gars.
Mais là, j'avais ma maudite tâche de balai. Fallait que j'aille faire ma mop. Puis là, à Saint-Pierre-Apôtre, le problème, c'est quand tu finissais de faire la mop, là, il fallait que tu te débarrasses de l'eau. Puis là, si tu jetais l'eau dans les toilettes, tu bloquais la toilette. Fait que là, le bedou était en tabarouette parce que tu avais bloqué la toilette. Fait que là, je me disais, ah, ils vont être fourrés, ils ne sauront pas quoi faire. Fuck, moi y aller. Ça commençait de même. Fuck, moi y aller. Puis là, je commençais à marcher, puis je m'en allais vers ma réunion. Je suis pas en train de te dire que à partir du moment où je disais « fuck, moi y aller », puis que je commençais à marcher vers ma réunion, qu'instantanément, ça allait mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je pense que je commençais à canter. Je commençais tranquillement à pencher sur le bon bord. Puis là, j'arrivais à réunion. Et immanquablement, il n'y a pas une fois où je suis rentré dans une réunion où il n'y a pas quelqu'un qui m'a regardé, puis qui m'a fait sentir qu'il était content que j'arrive à réunion. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Je dis toujours, je suis jamais sorti d'une réunion pire que je suis rentré. Je suis pas toujours sorti, olé, olé, hop, la vie, tout va bien, c'est pas vrai. Mais je suis jamais sorti pire que je suis rentré, puis je suis souvent sorti mieux que je suis rentré. Fait que j'allais là, j'écoutais. Puis là, je passe à la mop. Puis là, je jase avec le monde. Puis je continuais. Là, je regarde en face de moi, c'est marqué un jour à la fois, mais c'est ça. Un jour à la fois. C'est ça, un jour à la fois. Ça, j'ai fait d'en haut. Pas péniblement, un jour à la fois, parce que la façon dont je le raconte, ça a l'air de ça, mais c'est pas ça. Mais cette implication-là, tu sais, je dis souvent, une des implications les plus connues d'en haut, c'est faire le café. Tu sais, si tu vas faire du café chez Vanout ou chez Tim Horton, ça n'a pas le même effet, je te le dis tout de suite. Ça n'a pas le même effet. Je dis souvent, je paye du monde pour faire le ménage dans mon bureau. Je paye du monde pour faire le ménage chez nous. Mais dans les meetings, tu peux me demander de faire le ménage n'importe quand je vais le faire.
Hey Gérald, effectivement, l'implication, c'est un élément qui est très important dans le rétablissement puis dans le parcours d'un alcoolique qui veut arrêter de boire et qui adhère au mouvement des alcooliques anonymes. Tu as parlé aussi de « Un jour à la fois ». Ben, je te remercie parce que c'est le titre de notre émission. Et c'est effectivement ça, c'est vraiment arrêter de boire un jour à la fois. Donc, merci Gérald. C'est pas terminé. Il reste encore un segment. On revient tout de suite après la pause.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site internet aa-québec.org où tu trouveras par exemple le numéro de la ligne d'aide de ta région. Si tu ressens le besoin de parler, la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme dont fait partie Gérald, qui a la générosité aujourd'hui de nous offrir son partage. Gérald, j'ai presque envie de dire, malheureusement, c'est le dernier segment, mais on a hâte de t'entendre. Alors, à toi, Gérald.
Merci. C'est vrai que depuis le 30 juillet 1990, j'ai pas pris d'alcool. Je n'ai pas le goût de prendre de l'alcool. J'espère ne plus jamais prendre d'alcool. Parce que j'aime ma vie comme ça. J'aime ma vie en voyant clair. J'aime pas toujours ce que je vois. La vie n'est pas toujours facile, c'est pas vrai. Je suis pas en train de te dire si tu joins les alcooliques anonymes, la vie va toujours être facile. C'est pas vrai. D'ailleurs, je pense, sans me tromper, que jamais dans notre littérature, nous disons que c'est facile. J'en suis pas mal certain. Jamais on dit ça. On dit que c'est faisable. On dit que c'est mieux qu'avant. On n'ose pas le dire, mais on devrait dire « Tu vas découvrir des choses extraordinaires. » Je pense que au-delà de l'abstinence, puis je pense que c'est la condition de base. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai un ami qui avait fait des meetings un bout de temps avec moi, tu sais, au début, puis il m'avait dit « Gérald, comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir les deux? » J'ai dit « Quoi? » Il dit « Comment ça se fait qu'on ne peut pas continuer à boire puis avoir les avantages du programme des alcooliques anonymes? »
J'ai dit, c'est une maudite bonne question, mais je la connais pas, réponse. J'ai l'impression qu'il y a comme une contradiction entre les deux. Pour avoir les bienfaits de ce programme-là, l'abstinence est comme... C'est une condition. C'est une condition. D'avoir les idées claires. D'avoir les idées claires pour être capable de se comprendre. Moi, c'est ça qu'on m'a donné. C'est ça. Au bout de la ligne, là, quand je regarde, là, j'essaie de résumer, de trouver qu'est-ce qui est le sens de ce programme-là. T'sais. Le sens de ces étapes-là qu'on lit, t'sais. Nos étapes, puis tout ça, toute notre littérature. C'est quoi le sens de ça? T'sais? Pourquoi on fait tout ça? T'sais? Pourquoi on fait tout ça? Pour demeurer abstinent, c'est sûr. Là, c'est sûr que pour demeurer abstinent, mais ça va au-delà de ça. J'ai des amis, j'en connais, qui ont jamais recommencé à boire, puis qui font pas dehors, puis qui font pas de meeting. Je veux pas dire qu'ils vont mal, nécessairement. Mais l'avantage de AA, puis moi, je le sais, j'ai vécu une période d'abstinence avant de rejeter, puis devenir faire AA, parce que la grande partie, là, le dernier 30 ans, c'est avec AA. La grande différence, c'est que ce programme-là m'a permis de me comprendre, de me connaître. Grâce au programme et surtout grâce au partage. Moi, j'ai fait, je sais pas combien de meetings dans ma vie, j'en ai fait beaucoup. Je trouve ça extraordinaire, cette sagesse-là, tout cet enseignement-là que vous m'avez donné. T'sais. Comme je dis souvent, merci à tous les plus fous que moi qui m'ont partagé leur vie. Mon Dieu, que ça m'a fait du bien, tu sais, de trouver que j'étais pas si fou que ça, ou j'étais pas tout seul à être fou, tu sais. Et d'apprendre c'est ça, cette sagesse face à la vie. Hein. Puis je peux pas m'empêcher de parler, de penser à la période qu'on vit, là, la période de confinement à cause de la pandémie, là. Et on parle beaucoup de problèmes, de maladies mentales, de gens démunis, de gens qui ont toutes sortes de problèmes. Et moi, je dis pas que je suis pas touché par ça, on l'est tous. Il y a personne qui est indifférent à cette situation tellement exceptionnelle, tellement bouleversante dans toute notre vie. Mais je pense que je passe à travers assez bien grâce à ça, grâce à cette stabilité qu'AA m'a donnée. Grâce à cette compréhension, façon de voir les choses importantes. Qu'est-ce qui est important? T'sais? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est... C'est ça. Important dans ma vie. Là. Les choses importantes. Puis là, le vieillissement aussi, là, à l'âge que j'ai, là, 68 ans, là, on va plus vers les choses importantes, tranquillement. T'sais? C'est ça, exactement. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait... La littérature, c'est sûr que moi, je lis à tous les jours, je lis un bout de littérature. À tous les jours, je lis des réflexions de Bill qui m'amènent des choses. Toujours un petit quelque chose, toujours une petite affaire qui m'aide dans ma vie. Mais surtout le partage, surtout les autres, surtout cet avantage que nous avons d'expliquer nos difficultés, mes difficultés, tu sais. Je suis devenu, avec AA, grâce à AA, une meilleure personne. Une meilleure personne. Je pense que, tu sais, je suis devenu un meilleur père. Et là, la vie m'a donné cette grande chance. Je suis devenu grand-père depuis quelques mois. C'est tellement extraordinaire. Je pense que je vais être un grand-père, pas pire. Un meilleur chum pour ma femme. Un meilleur associé pour mes associés. Je me chicane pratiquement pas. J'ai de la tolérance. Plus de tolérance pour les autres. Plus de, tu sais, c'est ça. C'est tout ça, tu sais. Et c'est quoi le lien? Parce que quelque part, faut jamais perdre de vue que je suis venu à Alcoolique Anonyme parce que j'étais pas capable d'arrêter de boire, puis que j'espère ne pas recommencer à boire. Tu sais, c'est quoi le lien? J'essaye de le comprendre. Ça fait des années que j'essaye de comprendre. C'est quoi le lien? Comment ça se fait que quand tu mets en pratique ce mode de vie-là, quand tu fais des meetings, quand tu partages avec les autres membres des Alcooliques Anonymes, t'as plus de chances de demeurer abstinent, tu sais. Jacques m'avait dit ça. Je reviens à mon Jacques, là, qui m'avait dit, Gérald, implique-toi. Jacques me disait, Gérald, un alcoolique isolé, c'est un alcoolique en danger. Va faire des meetings. Implique-toi. Pour briser cet isolement-là. Parce que quand t'es isolé, c'est facile
où c'est possible. En tout cas, c'est facile de se compter des histoires. C'est facile de... Tu sais, on dit souvent l'espèce de spinning wheel, là, tu sais, qu'on a dans la tête, l'espèce de se pomper, c'est une sorte de folie, là, tu sais, c'est facile. Alors, peut-être que je me perds un peu, là, mais j'essaie d'expliquer c'est quoi le lien, puis honnêtement, je le vois pas. Je le vois pas à part que de dire « ça marche ». Moi, ça a marché. Pour moi, ça a marché. C'est, les fêtes s'en viennent. Là. C'est Noël bientôt. Puis il y a de l'alcool. T'sais. Il va toujours en avoir de l'alcool. Il faut jamais oublier ça. Là. Il y en a toujours autour de nous. T'sais. Moi, ça me dérange pas que les gens prennent de l'alcool. Je m'attends pas à ce que les gens soient abstinents autour de moi. Je demande pas ça à personne. J'ai réglé mon problème. C'est mon problème à moi. T'sais. Je vais terminer avec... des nouveaux, des gens qui ont de la difficulté à arrêter. Puis je sais qu'il y a de la rediffusion de nos partages, mais quand même, ça peut s'appliquer autant dans le temps des fêtes que ça peut s'appliquer à d'autres événements, n'importe quand. Tu t'en vas quelque part, puis tu sais qu'il va y avoir de l'alcool. T'sais. Si tu penses que c'est une bonne chose d'aller là, vas-y, ne t'empêche pas d'y aller. Mais sois prévoyant, sois prévoyant. Est une porte de sortie, est une réponse lorsqu'on va t'offrir de l'alcool. Et n'oublie jamais que, malgré le fait qu'on dise « non, la rigoureuse honnêteté », en ce qui concerne ça, tu as le droit de mentir. Tu as le droit de dire « ben moi, je suis malade, mon médecin », tu as le droit de dire n'importe quoi qui va te permettre de te tenir éloigné du premier verre. Parce que si tu te sens... Si t'es mal pris, mal prise, coincé... Je me souviens, je vais vous raconter un événement. Je suis dans un bar en République dominicaine, puis je bois pas, moi. Puis là, il y a de la musique, puis c'est fort, puis le waiter arrive, je me comprends pas, je suis pas bien bon en espagnol, puis je m'attends, je commande un rum and coke, c'est juste avoir la paix, c'est facile, tu sais. Puis je suis avec mon chum Bernard, qui est membre aussi, qui est devenu membre plusieurs années après. Bernard me poigne, puis il me sort dehors. Il dit, là, écoute-moi bien, là. Si tu veux boire, bois, c'est ton problème. J'ai aucun problème. Mais si tu bois parce que t'es coincé, là, ça marche pas, ça. C'est extraordinaire, hein? Il avait tout compris ça, lui. J'ai dit, non, fais-toi dans pas, boirais pas, là, je savais pas quoi commander. Je sais pas comment commander en espagnol. C'est toi, t'as un jus d'orange. Je sais pas comment dire ça. Bon. Mais souviens-toi de ça. Trouve-toi une porte de sortie, c'est important. C'est important de te... Ça peut insulter les gens. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi on boit pas. Mais, règle générale, ils sont plutôt admiratifs que critiqueux, les gens, là, par rapport à ça. Mais, fais ton affaire. C'est ça qui est important. Pense à toi. Parce qu'il faut pas oublier ça. AA, c'est un mouvement de générosité qui nous amène vers les autres, mais dans une préoccupation égoïste. Je suis là pour sauver mon cul. Peut-être que je finis pas avec les paroles les plus douces, mais je pense que c'est clair. Alors, merci à tous et bonne journée.
Ah, Gérald, c'était vraiment, vraiment inspirant de t'entendre aujourd'hui. Écoute, je retiens une date, 30 juillet 1990. C'est la date à laquelle tu as arrêté de boire et c'est une date importante parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Gérald qui est sobre, qui est abstinent et qui a eu la générosité, je dois le mentionner, parce que Gérald, on l'a appelé René, votre animateur habituel, qui est à la technique aujourd'hui, soit dit en passant. Merci René. René a appelé Gérald hier et vraiment, à 24 heures d'avis, Gérald a accepté de se présenter avec les distanciations sociales. Je tiens à le souligner, on est vraiment respectueux et prudent, mais il a quand même accepté de venir partager parce que il a parlé de l'importance de l'implication. Et ça fait partie aussi du rétablissement quand on joint les rangs d'alcooliques anonymes, de s'impliquer, de faire des tâches, de faire du café, pas chez Tim Hortons, hein, Gérald nous l'a bien dit, mais de s'impliquer. Puis c'est comme ça, AA, c'est un mouvement de partage. Et ce matin, t'es venu nous livrer un message d'espoir et je suis certaine que t'as fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes et je tiens à te remercier, Gérald, vraiment. Je tiens à remercier aussi tous les participants à cette émission, notre invité Gérald, encore une fois, les auditeurs, merci d'être là, l'équipe, René à la technique, je le répète, les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Mon nom est Danielle, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.